Vous êtes sur RTL.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment.
Journal inattendu.
4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique.
12h30, 13h30.
5h et quart. Y'a quelqu'un quelque part. Une lueur en espoir. Une main dans le noir.
Le journal inattendu sur RTL. Avec Calogero et Ophélie Meunier.
Peut-être ou peut-être pas.
Bonjour Calogero.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu.
Mais c'est très gentil de m'inviter.
Mais 20 ans de carrière solo, 8 albums et le dernier Centre-ville composé pendant le premier confinement. Déjà disque d'or, c'est moi, c'est pour moi le plaisir.
C'est pour vous le disque d'or?
Non, c'est pour vous le disque d'or, mais le plaisir est pour moi de vous recevoir. 15 jours après sa sortie, donc Centre-ville, déjà disque d'or. On aurait pu passer l'émission à écouter chacun des 12 titres, car il raconte notre société comme vous avez toujours su finement le faire. Et il vous raconte aussi, vous, cet album. Mais bon, on va se parler un peu quand même. C'est votre journal inattendu, c'est vous qui en prenez les commandes pendant une heure. On va découvrir votre regard sur l'actualité, on va recevoir votre invité, le chef triplement étoilé Jean-François Piège, car culture et restauration, finalement, en ce moment, vous êtes un peu dans le même bateau. Et le reportage inattendu qui donnera un exemple de comment sont utilisés les dons versés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Car oui, vous êtes aussi un artiste très engagé dès qu'il s'agit de se mobiliser et de faire preuve de solidarité. Mais d'abord, chaque semaine, pour commencer le journal inattendu, je donne à mon invité une minute pour se présenter. Ce n'est pas le portrait, hein, mais l'autoportrait. Alors Calogero, qui êtes-vous ?
Je suis celui qui fait ses gammes sur sa basse depuis l'âge de 16 ans. Je suis celui d'en bas, j'ai 18 ans et je monte à Paris. Je suis le centre-ville de Grenoble où je me rends tous les jours à pied en rêvant de devenir chanteur. Je suis dans ma cuisine et je fais des pâtes pour mes amis comme Lino Ventura. Je suis dans mon studio d'enregistrement comme un poisson dans l'eau. Je suis fils d'ouvrier et je ne l'oublie jamais. Je suis en voiture, j'entends un vieux Dépêche Mode à la radio et ça me rappelle quand tout a commencé. Je suis ce père qui veut pour ses enfants la liberté et l'indépendance. Je suis fasciné par l'histoire, on ne le sait pas. Je suis fasciné par Ennio Morricone, mais ça, on le sait. Je suis celui qui se méfie des rumeurs et du monde des réseaux sociaux. Je suis sur scène et je n'ai plus peur de rien. Je suis celui qui chante les mots d'Alana, Paul, Marie et les autres. Je suis celui qui a dernièrement composé...
Ça vous va bien d'écrire aussi? Faut le faire plus souvent.
Vous savez, le problème, c'est que mes notes de musique et mon cerveau vont plus vite que mes mots, que ma parole.
En tout cas, ça vous allait bien. Merci pour cet autoportrait. Tout de suite, le journal. Les vacances de Noël, c'est parti. Sur fond d'épidémie, vous êtes 750 000 voyageurs attendus dans les gares de France ce week-end. C'est 3 fois moins que d'habitude à cette période. Nous serons dans un instant en direct de la gare Montparnasse où de nouvelles mesures ont été prises pour protéger au mieux les passagers. À l'approche des fêtes, les autorités françaises s'inquiètent d'un rebond de l'épidémie et pas que. Vous verrez qu'en Europe, tout le monde se serre la vis pour éviter une troisième vague. Nous retrouverons notre correspondante à Rome. L'Italie se prépare à un confinement strict dès lundi. C'est le grand soir pour les 29 candidates à l'élection de Miss France 2021. Elles répètent en ce moment dans le parc du Puy du Fou. Là aussi, mesures sanitaires renforcées. Mais le spectacle sera assuré malgré tout pour célébrer les 100 ans de l'élection. Et puis demain, les handballeuses françaises tenteront de décrocher un nouveau titre de championne d'Europe face à la Norvège. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Pluie et grisaille hein, ce week-end.
Ouais, c'est pas terrible. Et en même temps, la dégradation qui nous intéresse traverse le pays, mais elle n'est pas extrêmement active. active. On a quelques pluies qui circulent entre le nord, les Ardennes, et ça descend jusqu'aux portes du Pays Basque, en passant par le bassin parisien ou encore la région centre. Et puis on a en revanche des averses orageuses assez sérieuses près de la Méditerranée, notamment dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Faudra surveiller ce soir et la nuit prochaine parce que ça pourrait vraiment tomber assez dru, donc avec un fort cumul d'ici demain matin. Et sinon, on va trouver quelques éclaircies de temps à autre dans l'est et à l'opposé derrière la dégradation sur le nord-ouest. Alors il y aura forcément quelques averses, mais il n'empêche que le soleil devrait passer de temps en temps. Les températures, elles sont très douces. 10 degrés à Annecy cet après-midi, 11 à Lille, 12 à Paris, 14 à Mâcon et Nantes, 15 à Carcassonne et 18 à Bastia.
Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 18h. Oui. Parce qu'à 13h, c'est vous, Calogero, qui faites la météo.
Ok, maintenant, tout de suite.
Non, à 13h, à 13h. Vous avez encore une petite demi-heure pour vous préparer.
Quand vous voulez, vous savez.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est le début des vacances de Noël et sur fond d'épidémie, les habitudes des Français sont bouleversées. 750 000 voyageurs sont attendus dans les gares de France ce week-end. Normalement, à cette période de l'année, c'est trois fois plus. Les Français ne partent pas vraiment dans des destinations de vacances, mais plutôt pour retrouver leurs proches. Nous sommes en direct de la gare Montparnasse avec notre envoyé spécial, Morad Djabari. Pour tous ceux qui s'apprêtent à prendre le train, Morad, alors à quoi s'attendre dans les gares de France ce week-end ?
Eh bien, il y a très peu de monde à la gare pour ce dernier week-end avant Noël, avec, vous le disiez, 30% de voyageurs en moins que d'habitude, mais les fondamentaux sont toujours là. Les vacances de Noël, c'est ce moment de l'année où l'on a plus de paquets cadeaux que de bagages. Christelle se dirige vers une destination assez exotique, la Venise verte.
À Niort, dans les Deux-Sèvres.
C'est pas mal, il y a des grands espaces, il y a de l'horizon en tout cas.
Il y a la Venise verte, un très bel endroit pour se promener. Comme Venise, mais avec des champs à côté.
Et c'est moins loin.
Et c'est moins loin, voilà. Il y a du bon fromage de chèvre, c'est une région très sympa.
Qu'est-ce que vous avez au programme alors ?
Revoir la famille, qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et ça c'est bien, les grands-parents, le tonton.
Est-ce que finalement c'est pas ça le vrai cadeau cette année ? C'est de pouvoir retrouver la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps.
Exactement, se voir enfin et profiter un peu les uns des autres.
Puis il y a les enfants qui trépignent peut-être d'impatience à l'approche de Noël. Comment tu t'appelles ?
Édouard. Heureusement que les règles Covid ont diminué. Ça, c'est bien qu'on puisse aller pour éviter qu'on passe Noël à distance sur Zoom.
Tu attends quoi comme cadeau ?
Ça va être plutôt type vêtements maintenant, quelques sous, etc.
Et la joyeux Noël.
Merci, vous aussi.
Et une fois arrivé à Niort, direction tout de suite les magasins pour les dernières courses de Noël et un test PCR pour rassurer les grands-parents.
Merci Morad Djabari et joyeux Noël à vous aussi pour bientôt. Vous êtes en direct de la gare Montparnasse à Paris pour RTL. Avant Noël et avant de se retrouver en famille, même en petit comité, la ruée sur les tests Covid a commencé. Les laboratoires s'attendent à un flux exceptionnel ces prochains jours. Test antigénique, test PCR, que choisir et quand le faire pour prendre le moins de risques possible ? Eh bien le test PCR est de loin le plus fiable, mais donne un résultat à l'instant T. Attention de ne pas le prendre comme un totem d'immunité. L'idéal est de le faire plusieurs jours avant de retrouver sa famille et de rester à l'isolement après avoir fait les tests. Sachez que les autorités sanitaires s'inquiètent d'une reprise préoccupante de l'épidémie en France avant les fêtes. Hier, on a franchi la barre des 60 000 décès liés à la Covid-19 dans notre pays. D'ailleurs, il n'y a pas que chez nous que l'on s'inquiète. Tour de vis sur les mesures sanitaires dans plusieurs pays d'Europe à l'approche de Noël. En Suède, par exemple, revirement de stratégie. Les masques ne sont toujours pas obligatoires, mais pour la première fois, les autorités recommandent de le porter dans les transports publics. L'Autriche imposera, elle, un troisième confinement strict dès le lendemain de Noël, le 26 décembre. Et puis en Italie, nous retrouvons notre correspondante à Rome, Anne Lenir. Le pays s'apprête à prendre une décision extrêmement symbolique.
Eh bien ici, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, demande un véritable sacrifice aux Italiens. On peut dire qu'ils devront faire une croix sur Noël et sur le Nouvel An. Les commerces non essentiels et les restaurants seront fermés. Nos cousins transalpins ne pourront inviter chez eux que deux adultes pour les repas festifs. Durant le confinement qui se prolongera jusqu'à la fête de l'Épiphanie, une seule sortie par jour et par personne sera tolérée. Les contrevenants aux règles seront passibles d'une amende de 400 à 1000 euros. Le concept est clair, tutti a casa, tous à la maison, pour éviter une troisième vague de l'épidémie de coronavirus.
Anne Lenir, à Rome pour RTL, Calogero, vos origines siciliennes, j'imagine, vous donnent envie de regarder de très près ce qui se passe là-bas.
Bien sûr.
Pas de fête en Italie, ça c'est quelque chose.
Et pour les pays latins en général, c'est compliqué. C'est des moments très importants en famille. Après, en Italie, ils savent aussi, ils ont ce côté un petit peu, parfois on peut dire un peu désordonné, mais en même temps, ils savent serrer la vis quand il faut. Je pense que c'est un peuple qui sait être rigoureux quand il faut, puis surtout pour en plus se revoir plus tard et espérer des jours meilleurs.
Preuve en est. Bon message. Merci Calogero. Voilà pour la situation sur l'épidémie en France et en Europe à quelques jours de tourner la page de l'année 2020. Dans un instant, on part au Puy du Fou en Vendée, rejoindre les prétendantes au titre de Miss France. L'élection, c'est ce soir.
Le journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Calogero et Ophélie Meunier.
La suite des infos, c'est une année événementielle pour les Miss France à plusieurs titres. Tout d'abord, l'élection fête ses 100 ans, mais devra composer avec une situation sanitaire exceptionnelle. Ce soir, elles seront 29 candidates entre 18 et 24 ans à tenter de décrocher le titre tant convoité de Miss France 2021. Petite mise au point, il n'y aura pas 300 personnes présentes ce soir, mais moins de 100 pour respecter au mieux les distanciations. Nous retrouvons en direct du Puy du Fou notre envoyé spécial Laurent Marsic au milieu des anciennes Miss et des prétendantes. Bonjour. Laurent Marsic, alors à quelques heures du grand show.
Bonjour Ophélie.
Comment se sentent-elles ces Miss ?
Bon, écoutez, ça va bien, on est dans la dernière ligne droite. La répétition toute la journée pour les 29 Miss qui sont arrivées à la salle à 10h ce matin. Ces répétitions, c'est le moment des derniers calages. On règle notamment les déplacements sur scène. Alors dit comme ça, ça peut être simple. Mais il faut quand même imaginer et comprendre que ce sont pour la plupart 29 amatrices qui doivent retenir par 9 tableaux et autant de chorégraphies, les gestes, les sorties de scène, ça c'est ce qu'elles ont fait ce matin. Pause déjeuner en ce moment, c'est pour ça qu'il y a un peu de silence derrière moi. On passe un coup d'aspirateur sur la scène, puis à 14h on va jouer la cérémonie comme pour de vrai, un filage complet jusqu'au couronnement. Répétition aussi pour les anciennes Miss qui sont présentes, comme pour Suzanne Angly, tiens, par exemple, Miss France 1969. Voici son conseil pour les Miss.
Je n'ai pas trop de conseils à donner, mais enfin dans l'ensemble, il faut rester déjà soi-même. Garder les pieds sur terre et rester simple. C'est vrai que dans les années 60, c'était un peu la formule « sois belle et tais-toi ». Mais c'est vrai que ça a vraiment bien changé et puis il était vraiment temps.
Le thème ce soir, vous l'avez dit, c'est de célébrer les 100 ans de concours de beauté en France. Vous verrez, c'est très féerique. La production s'est notamment appuyée sur les figurants du parc du Puy du Fou. La scène est posée sur l'eau dans laquelle évoluent des chevaux et des danseurs. La suite maintenant pour les Miss, après le grand filage, c'est la torture que nous, les chauves, ne connaissons pas. Préparation des coiffures et puis on pose les bases de maquillage. Elles feront ça vers 17-18 heures.
Vous avez bien de la chance de pas connaître ça. Merci Laurent Marsic. Évidemment, on suit avec vous cette soirée et le résultat sur l'antenne d'RTL. Les femmes sont à l'honneur dans ce journal en sport. Les handballeuses françaises, championnes d'Europe en titre, tenteront une nouvelle fois de remporter la finale demain face aux Norvégiennes. Hier contre la Croatie, les Bleues ont terminé avec une large victoire, 30-19. C'est donc une équipe soudée et en pleine confiance qui entrera sur le parquet pour la finale demain à 18h. On écoute la joueuse française Kalidia Tuniakate.
Déjà, je pense que déjà on s'entend très bien, on vit très bien ensemble. Donc ça, c'est déjà important pour espérer gagner une finale. Après, je pense que plus les matchs avancent et plus on est bien, on joue mieux. Et on l'a encore démontré hier, donc je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Donc voilà, je pense qu'on a confiance en nous et de toute façon, comme j'ai dit, on va tout donner pour essayer de garder notre titre.
Et bonne chance, match à suivre demain sur notre antenne. Voilà pour les informations. Votre actualité, Calogero, c'est cet album, Centre-ville. Déjà disque d'or, 15 jours à peine après sa sortie, vous l'avez réalisé pendant le confinement. Je voudrais commencer avec cette belle promesse que vous nous faites sur l'album. C'était mieux après, on espère tant.
Combien d'amour raté par heure, combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, on s'empêche d'avancer. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après.
Qu'est-ce que ça fait du bien au monde de la culture de se dire ça ? Parce que depuis les dernières annonces de notre gouvernement, le monde de la culture n'est pas à la fête. Essentiel, pas essentiel. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, c'est très important. L'appellation non essentielle que vous trouvez très inadaptée,
oui, inadaptée,
très insultante.
Un peu humiliante, oui.
On peut prendre des mesures sanitaires, mais on ne peut pas dire, selon vous, que la culture est non essentielle.
Oui, parce que je pense qu'il faut se méfier des mots. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, et je pense à d'autres, si je n'avais pas eu la musique et la culture, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie ? Donc, ça a été plus qu'essentiel pour moi. Et j'ai surtout peur que ce soit un label qui reste pour nos enfants. Voilà, c'est un peu... C'est un petit peu inquiétant.
T'entendre les mots de dissocier en tout cas, pas essentiel, et culture, ça va pas ensemble.
Non, ça va pas ensemble. Surtout, surtout dans au pays des Lumières, enfin, un pays de Victor Hugo, c'est... D'ailleurs, je crois que le musée Victor Hugo va être... J'ai entendu dire qu'il allait être définitivement fermé. Ça fait un peu froid dans le dos, toutes ces associations de choses.
Un album cette année, ça laisse quoi comme trace? Une année si particulière et un album qui cartonne en plus. Vous retiendrez quoi de ce moment?
Vous voulez dire de l'année 2020?
Oui, 2020.
C'est une année un peu étrange. Il y a eu des grandes inquiétudes, surtout au moment du premier confinement. C'est une période vraiment... Un peu anxiogène, quoi. Mais qui, en même temps, on s'est mis, je crois, tout le monde s'est mis en défense et on a trouvé d'autres ressources, une manière de se rapprocher différente.
Et vous avez été hyper inspiré parce que c'est pendant le premier confinement que vous l'avez composé, cet album.
Oui, mais c'est une période inspirante. Mmh. Puisque, au départ, alors avec une chanson, on fait comme si assez intimiste. Mais finalement, avec des chansons plus lumineuses, parce que, comme tout le monde, j'ai envie qu'on s'en sorte. J'ai envie d'un printemps, je rêve d'un printemps, avec les beaux jours. D'ailleurs, c'était aussi un printemps l'année dernière, où tout le monde s'est refermé.
Ouais.
On a reçu un gros coup sur la tête, ça a freiné le monde en général, mais avec le monde dans tout ce qui représente, dans le monde de l'argent aussi, parce qu'on est quand même malheureusement dans un monde d'argent qui fait beaucoup de mal à tout le monde, et même ça, tout le monde a dû se mettre au même diapason, et c'est à la fois étrange et intéressant aussi.
Je disais dans cet album que vous vous racontiez, il y a cette histoire de rencontre amoureuse inspirée de la réalité mais romancée, hein, vous l'avez dit, écrite par votre parolier fétiche, Paul École, celui d'en bas.
La ville était vide, c'était l'été. On allait à la piscine ou dans les cafés, je l'aimais, je crois, tu vois.
Retiens de chanter. Il y a un message social aussi dans cette chanson. Elle fait partie des chansons dont on parle le plus sur l'album en ce moment. Vous pensez que c'est pour l'intro au saxo, pour son message social, ou parce que toutes les femmes rêveraient qu'un jour un homme leur écrive une aussi belle chanson?
Je pense que, je sais pas, c'est peut-être... Une chanson, c'est souvent un mélange de beaucoup de choses qu'on ne calcule pas, qui vous échappe. Et cette chanson-là, peut-être... le saxophone est assez réconfortant, il y a quelque chose comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Un saxophone, c'est un instrument de la rue, quoi, qui peut être joué même dans le métro
et joyeux en même temps.
Et je crois que le sujet, là, c'est une chanson qui traite quand même du rejet, d'un sentiment d'abandon quand on est adolescent, se sentir abandonné par celle qu'on aime, quand on a mis son plus joli pantalon et ses plus jolies baskets et qu'elle ne vous a pas regardé. Ça laisse, on en rit comme ça, mais ça peut laisser aussi des traces dans la...
Ça marque, hein.
Bah oui, ça marque, bien sûr. Moi, en tout cas, je l'ai transformé en quelque chose de positif, puisque c'est là où j'ai commencé à faire de la musique, et peut-être pour que cette personne me regarde.
On continue à parler de vous, de la société, de vos différents paroliers. J'ai parlé de Paul École, mais il y a aussi Marie Bastide et il y a aussi Benjamin Biolay sur cet album. Ouais. On parle de tout ça dans un instant. Vous êtes sur RTL, à tout de suite.
RTL, le journal inattendu.
Calogero, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL, avec Calogero et Ophélie Meunier.
Peut-être ou peut-être pas, j'espère qu'elle décidera d'accomplir ses rêves de gosse, de laisser passer son carrosse.
Une chanson de papa à son enfant. Ils vous écoutent, vos quatre enfants? Ils vous disent un peu ce qu'ils pensent de votre musique?
Bien sûr, ils écoutent dans la voiture. En fait, je crois qu'ils n'osent pas me dire sur le moment. Au moment où je fais les chansons, je crois qu'ils me laissent faire, quoi.
Mmh.
Et là, j'ai eu un message de ma grande fille Romy qui m'a félicité. Ça m'a hyper touché.
Ah,
alors qu'elle connaît l'album par cœur.
Ça, c'est le meilleur compliment.
Et du coup, voilà, j'ai reçu un petit texto, bravo papa. Il est super son album et ça m'a, ouais, ça m'a touché. C'est génial.
C'est le cas de beaucoup d'artistes, mais vous êtes un homme de scène. Vous dites que sur scène, vous n'avez peur de rien, parce que dans la vie, vous êtes un grand angoissé.
J'ai des peurs, en tout cas, comme beaucoup de gens. Enfin, j'ai des peurs qui servent à rien. Enfin, les peurs, ça sert à rien, les peurs. Voilà, les vraies peurs, celles quand on croise un vrai tigre dans la rue, elles sont quand même très rares. Et voilà, toutes ces petites peurs, elles tombent quand je suis sur scène. Alors je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Je n'ai plus de complexe, je me pose aucune question quand je suis sur scène, en fait. Je me sens rassuré, je me sens chez moi, et je crois que c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie.
De plus en plus d'artistes le font là ces derniers temps, puisqu'on sait que les salles de spectacle sont fermées. Un concert à distance, en live stream, comme on l'appelle, hein, sur Internet, donc sans public, mais le public derrière son écran, vous feriez ça?
Très honnêtement, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, pour le moment, je me dis, je préfère attendre un petit peu. Je pense que les choses, malgré tout, vont quand même assez vite. On parle déjà d'un vaccin, alors qu'on met 10 ans normalement à faire un vaccin. Je préfère attendre un petit peu et retrouver mon public, vraiment faire des vrais concerts, parce que pour moi, ça rime. Enfin, c'est une télé, sinon c'est pas un concert, quoi.
Je sais que vous rêvez d'un printemps 2021 où tout sera devenu normal, vous l'avez dit tout à l'heure, et surtout où on se retrouvera tous à boire des coups.
Mais rêver, c'est important, non?
Ouais.
Oui.
À boire des coups où? En centre-ville.
Mais nous de centre-ville, c'est un film censuré. Alors où je m'éveille, vous glissez nu sous les draps, tandis que moi je sors quand la ville dort et que j'embrasse des filles qui
Chanson écrite par Benjamin Biolay, qui signe aussi Mauvais Perdant sur votre album. Ça s'est passé comment cette collab? C'est son idée ou c'est la vôtre?
Alors, c'est sur cette chanson-là, Centre-ville, c'est son idée.
Ouais.
Je crois qu'on a un peu traîné dans les mêmes endroits il y a quelques années. Donc, du coup, on avait ce point commun et puis surtout une envie de faire des chansons ensemble. On avait travaillé un petit peu sur Circus, il était venu jouer de la trompette sur le projet Circus. Mais on n'avait jamais fait de chansons ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. D'abord, c'est un provincial comme moi, de Lyon, moi de Grenoble. On a des influences communes. Je crois que musicalement, on a vraiment, musicalement et au niveau des mots qui me fait chanter, on a plein de choses encore à dire tous les deux.
Vous parlez d'influence. Je vous ai demandé quelles étaient vos chansons préférées. Vous m'avez répondu I Am the Walrus des Beatles, Billy Joel Honesty et When the Street Have No Name de U2. Pourquoi cette chanson?
When the Street Have No Name, en fait, cette chanson-là, alors les plus grands moments de ma vie, bien sûr, c'est la naissance de mes enfants. Mais aussi ce concert de U2 à Montpellier où j'étais môme, j'étais en Doc Martens dans la fosse et j'attendais depuis 6 heures. 70 000 personnes en plein air. J'avais fait toute la Grenoble-Montpellier avec mon frère et mes copains. On attendait toute la journée U2, c'était l'album Joshua Tree. Il y avait des super premières parties, il y avait les Pretenders, UB40, c'est vraiment des grosses affiches avant, des grandes têtes d'affiches avant U2. Et la nuit tombe. Rien que d'en parler comme ça, j'en ai les frissons, quoi. Et l'intro.
On le voit, voilà, le cadeau à dos, là.
Where the City of the Name avec The Edge, le guitariste de U2, qui rentre tout seul sur scène avec le riff de guitare. C'était dingue. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie.
On a des frissons et le cœur qui bat rien qu'à vous écouter. Vivement le retour des concerts. Je reviens à Centre-ville. Sur l'album, il y a aussi La Rumeur. On en parlera tout à l'heure. La rumeur.
La rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte. Tu appuies sur une touche et elle s'exporte.
Message important, la rumeur. Méfiez-vous des réseaux sociaux.
Oui, moi, de toute façon, j'ai pas peur de le dire et de passer pour un vieux con. Je m'en méfie terriblement. Alors, à titre personnel, je n'y suis pas, ou en tout cas, j'y suis, mais je réponds jamais. Je regarde un petit peu comme ça, le soir, un petit peu Facebook, mais je veux dire, je poste rien. Je me méfie énormément. Voilà, parce qu'il y a, depuis longtemps maintenant, un lynchage psychologique, notamment chez les jeunes, qui peut arriver très vite. et ouais, qui est assez inquiétant. Et puis c'est aussi l'absence totale de la présomption d'innocence, les rumeurs sur internet, quoi. C'est-à-dire que un tel, il paraît qu'un tel a fait ça, mais on n'a aucun doute. Oui, il l'a fait. Et puis tout le monde, il met son, enfin tout le monde donne son avis. C'est l'anarchie totale, et du coup, ça peut amener à des choses très graves, à des suicides même.
On sent aussi le conseil d'un papa à ces enfants-là.
Oui.
Dans un instant, le rappel des titres, votre météo, Calogero, et on parlera de l'artiste engagé que vous êtes. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Calogero avec Ophélie Meunier sur RTL.
Vous êtes bien sur RTL.
Le journal inattendu de Calogero.
13h, les titres de l'actualité. Ophélie Meunier.
Il vient de tomber le dernier bulletin de santé du président Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, présente aujourd'hui un état de santé stable par rapport à la veille, et les résultats de ses examens cliniques et paracliniques se sont révélés rassurants, a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Le chef de l'État, à l'isolement dans la résidence officielle de la Lanterne à Versailles, présente toujours les mêmes symptômes de la maladie du Covid-19, fatigue, toux, courbature, qui ne l'empêche en rien de remplir ses fonctions, ajoute ce bref communiqué signé du docteur Jean-Christophe Perrochon, médecin-chef de la présidence de la République. Est-il encore temps de faire un test PCR avant de retrouver sa famille pour les fêtes? Oui, mais faites-le rapidement et surtout après, prenez un maximum de précautions. D'ailleurs, vaut-il mieux faire un test PCR ou un test antigénique? Réponse du président du syndicat des biologistes, François Blanchecotte.
À l'instant T, un test PCR négatif, ça garantit que vous n'avez pas de virus dans votre nez. Ça, c'est clair. Un test antigénique négatif ne garantit pas que vous n'êtes pas porteur du virus. Et en fait, le meilleur comportement, c'est ces mesures barrières très importantes. Il faut être draconien. Il faut que le masque que l'on porte, évidemment, le garde le plus longtemps possible sans y toucher. Et en plus, il faut que toutes les personnes que vous rencontrez, avec lesquelles vous allez vous exprimer, et en plus pas dans des pièces confinées pendant plusieurs heures, soient porteuses d'un masque. Donc, toutes ces conditions-là doivent être réunies, particulièrement avant les fêtes, particulièrement cette semaine, le compte à rebours est parti, jusqu'au 24. Et c'est ça ce qui va permettre de maîtriser l'épidémie au début janvier et de voir si on n'a pas une troisième vague qui arrive.
Les conseils de François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes au micro RTL d'Odile Pouget. Les autorités sanitaires s'inquiètent d'un regain des contaminations en France et demandent aux familles d'être extrêmement vigilantes ces prochains jours pour éviter une troisième vague épidémique. Elles sont en train de répéter dans le parc du Puy du Fou les 29 candidates à l'élection de Miss France 2021. Ce soir, il n'en restera qu'une. Elle succédera à la Guadeloupéenne Clémence Bottino. Malgré un événement qui doit répondre à des mesures sanitaires strictes, les organisateurs promettent un grand spectacle, d'autant plus que ce soit en fait les 100 ans de Miss France. Côté foot, rendez-vous à 18h dans On refait le match avec Christian Olivier. Il reçoit Frédéric Thirier, candidat à l'élection pour la présidence de la Fédération française de football. Les affiches de cette 16e journée de Ligue 1, Metz-Lens à 17h, l'OM affronte Reims à 19h et Nice rencontre Lyon à 21h. Le temps, c'est avec vous, Calogero. Alors, quel temps fera-t-il ce week-end?
Alors, le temps ce week-end. Du gros temps cet après-midi et ce soir, du Var aux Alpes-Maritimes avec de fortes pluies orageuses. Ailleurs, la grisaille dominera souvent, accompagnée de pluies régulières des Hauts-de-France aux Pyrénées. A contrario, l'est du pays devrait profiter de quelques éclaircies. Les températures iront de 8 à Belfort, de 18 à Ajaccio, et il fera, dans ma ville d'origine, 11 degrés à Échirolles.
C'était un plaisir.
Mais c'était chouette d'être avec vous, vraiment.
Calogero, vous êtes un artiste qui se mobilise très souvent pour des œuvres caritatives. Le site d'action, Solancy, les Enfoirés et j'en passe. Il vient d'où cet engagement? C'est spontané ou il y a eu un déclic?
J'ai surtout, il y a des choses qui m'ont quand même un petit peu échappé. Par exemple, la chanson Les Feux d'Artifice. Je ne savais pas au départ que j'allais un jour la chanter devant les parents des victimes des événements de Nice. Donc moi je m'engage, c'est les chansons souvent qui s'engagent aussi à ma place, vous voyez ce que je veux dire.
Vous parlez de chansons, On fait comme si, composé pendant le confinement, vous avez ouvert vos fenêtres à 20h, vous avez entendu comme nous tous les applaudissements pour les soignants.
Il y avait une vraie envie d'être utile et de j'entends dire que le corps médical avait très peu de temps pour manger, voire même ne mangeait pas parce que les cantines étaient fermées. Et j'ai mon ami Mani Jaïr qui m'a proposé justement de contribuer à faire en sorte que les aides-soignants mangent bien et
travaillent dans les meilleures conditions.
C'est une goutte d'eau, si vous voulez, mais c'est simplement de se sentir utile, parce que c'était ce premier confinement était quand même très particulier.
Toutes les recettes liées à cette chanson ont fait comme si sont reversées à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Mais de manière générale, cette Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, que fait-elle des dons? Un exemple, notre reporter Odile Pouget est allée dans le centre hospitalier pédiatrique de Bullion, dans les Yvelines. C'est le reportage inattendu.
Bonjour. Vous êtes ici à la Maison des Familles. Je vais vous faire visiter votre chambre.
Voix chaleureuse, regard pétillant. Véronique, la gouvernante, accueille ici depuis 3 ans les parents des enfants hospitalisés.
Nous avons des frigidaires à disposition.
Une grande pièce commune pour que chacun puisse préparer ses repas. Et 3 petites maisons en bois à quelques mètres de l'hôpital, dotées de 15 chambres bien équipées.
Tout le confort nécessaire pour que les parents se sentent le mieux possible. Moi, je dis qu'un parent serein, c'est un gain sur la maladie.
De la sérénité, un peu de répit, de la convivialité à 200 km de chez elle. C'est le quotidien depuis 3 semaines de Jennifer, maman de Méline, 23 mois, atteinte d'une maladie rare.
Elle est alimentée de 19h30 à 9h30 du matin par une pompe. Si on voit qu'elle est en hypoglycémie, elle peut tomber dans un coma, voire mort. Une maladie qui est contraignante, qui demande beaucoup de surveillance.
Pour Jennifer, se séparer de sa petite fille serait un véritable cauchemar.
C'est mon bébé, je ne peux pas la laisser. Des fois, on a un coup de mou et des fois, juste d'aller le voir, ça nous rassure, on est apaisé, on rentre et on est bien.
Moi, mon fils, il est très bien pris en charge et la maison des parents nous apporte en fait ce calme qu'on a pu.
Laure, maman de Mathis, 13 ans, en rééducation pour des troubles de la motricité après l'ablation d'une tumeur au cerveau.
Ça nous permet d'être moins fatigués parce qu'on serait obligé de faire les allers-retours. Et ça rassure aussi les conjoints et les frères et sœurs qui sont à la maison parce qu'ils savent que le petit frère, la grande sœur, n'est jamais tout seul en fait.
Se sentir soutenu, épaulé, c'est complètement réconfortant.
Les soins des petits malades sont facilités, plus de sourires, moins de souffrances, comme le constate le docteur Virginie Albonico, pédiatre, responsable de l'hôpital de jour.
Et effectivement, on voit très très bien la différence et le bénéfice pour les enfants quand leurs familles sont là. Une amélioration de l'appétit, le sommeil qui est plus facile, la joie de vivre au quotidien, il y a l'anxiété qui tombe un petit peu. Donc du coup, les choses se posent et les enfants sont plus sereins.
La construction de la maison des familles a coûté 2 millions d'euros, un quart financé grâce aux pièces jaunes. Francesco Moreno, directeur du centre hospitalier.
C'est plus qu'une aide, c'est un poumon qui est nécessaire en fait à la vie de cette institution.
Chaque année, pour un tarif journalier de 20 euros, une centaine de familles séjournent ici, une nuit, quelques semaines ou plusieurs mois.
Voilà, c'est utile, faire des dons. À quoi ils servent concrètement? Aider les soignants pendant le premier confinement ou alors faire en sorte que les parents et les enfants ne soient pas séparés pendant des soins. Ça sert concrètement et c'était le message qu'on voulait faire passer. Dans un instant, Calogero, votre invité nous rejoint dans ce studio. C'est le chef Jean-François Piège. Vous écoutez le journal inattendu avec Calogero. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu. Calogero est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je sais qu'il manque parfois l'étincelle. Je sais qu'il ne nous manque pas l'essentiel. Je sais que c'est toujours la
ça danse dans la régie. Et alors là, je dois vous dire que depuis 3 minutes, Calogero est hyper content. Et là, il a un sourire jusqu'aux oreilles parce que Calogero adore la bonne gastronomie. Et Jean-François Piège, bienvenue, nous a rejoint dans ce studio.
Bonjour,
avec une bible de la cuisine, je l'ai ici, ça pèse. Il y a la cuisine française, recettes bourgeoises et populaires, tout ce qu'il faut pour
c'est
se régaler.
C'est le livre que j'aurai dans ma cuisine, c'est magnifique.
Il va démarrer dès cet après-midi.
Ah ouais, je suis ravi que Jean-François soit là parce que c'est l'un de mes préférés vraiment.
Alors on vous...
Ouais, c'est vrai.
On vous connaît pour tout ce qu'on vient d'entendre, Calogero, un peu moins pour votre passion pour la bonne gastronomie, c'est fini, ça y est, on le sait maintenant. Jean-François Piège, avant tout, on va en parler hein, de ces bonnes recettes, on va se faire du bien, mais quelles sont les dernières nouvelles pour les restaurants? Cette dernière semaine, évidemment, elle n'était pas très bonne, est-ce que vous en avez eu des nouvelles ces derniers jours?
Oui, les tendances, elles sont pas là. Donc, la probabilité qu'on réouvre au mois de janvier, c'est pas gagné. Mais ça, c'est les jours qui vont arriver si tout le monde a conscience de garder les distances, les gestes, respecter les gestes barrières et d'être attentif. Peut-être que on arrivera à passer cette deuxième vague et d'éviter même la troisième.
Pour que nos auditeurs comprennent bien concrètement quel est le souci que vous avez aujourd'hui. C'est un souci de trésorerie. Quel est le souci?
Le souci, il est simple, c'est qu'un restaurant, ça consomme 30% de frais fixes, donc 30% du chiffre d'affaires par mois. Que lors du premier confinement, on a tapé dans la trésorerie, que à partir et à Paris, on n'a pas eu 2 mois de confinement, mais 3 parce qu'on n'a pas réouvert que le 15 juin, que on a eu le couvre-feu au mois d'octobre, qu'on a le deuxième confinement et qu'à partir peut-être du 1er décembre, on a un soutien de l'État qui est même pas au niveau de ce qu'on consomme, c'est-à-dire qui est de 20%. Donc là, on arrive au bout du bout, c'est-à-dire que si ça dure, ça va être une catastrophe, je veux pas dire nationale, parce que je sais pas si on peut considérer ça comme ça, mais catastrophique en tous les cas, une catastrophe catastrophique.
Vous pensez que ça, cette fermeture, elle pourrait durer jusqu'à quand, selon vos discussions et vos informations?
Ce que j'ai peur, c'est qu'elle se prolonge encore depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on se revoit au printemps.
Printemps, donc ça fera un an en fait.
Ça fait un an d'inactivité et un an où on nous a privé de notre liberté d'entreprendre pour des raisons que je comprends totalement. On s'est conformé à toutes les règles. On a investi d'ailleurs parce qu'il a fallu investir pour créer ces gestes barrières, pour avoir des outils numériques, pour proposer différemment notre commercialité de nos restaurants, notre offre en fait. Et je trouvais pas le mot, pardon. Et aujourd'hui, on se sent un peu puni parce que on nous laisse assumer la charge de ça et on vient pas suffisamment à notre soutien.
Alors on sait, oui, allez-y.
Non, mais je pense qu'il faut prendre cette conscience-là. Et c'est dur de le dire. Moi, j'ai la parole, j'ai la chance, mais je pense à tous ceux qui n'ont pas la parole et qui souffrent chez eux parce que je parle de Paris, mais c'est la France, et la restauration, c'est des grands et des petits. C'est pas des gens connus, pas connus. Quand je dis des grands et des petits, c'est des petits cafés du coin qui, eux, ont des difficultés. Et c'est des grands restaurants qui, eux, ont aussi des difficultés. Donc, on est tous dans le même bateau, là.
Le problème, en fait, à chaque fois, c'est aussi beaucoup les vacances. Donc, un message pour les Français, pour vous soutenir, essayer d'être... ça vaut pour les restaurants, et puis ça vaut pour tout, essayer
d'être vigilant,
le plus vigilant possible pour faire en sorte que nos restaurants rouvrent. Alors, vous avez quand même pensé à nous, avec ce beau livre, Les Fêtes Arrivent. Cuisine bourgeoise et populaire, des techniques, des recettes. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette Bible?
En fait, pour moi, la cuisine, c'est je retrouve le sourire quand j'en parle. C'est prendre du plaisir pour faire plaisir aux autres. C'est-à-dire, on prend du plaisir à la faire pour faire plaisir aux autres. Et la cuisine française, elle a cette particularité, c'est qu'elle peut être extrêmement complexe dans des recettes très compliquées, mais aussi, elle peut être extrêmement accessible sur une recette très simple. Il y a un croque-monsieur. Parce que le croque-monsieur, peut-être que si on a la bonne technique, c'est-à-dire qu'on fait une crème de fromage, c'est bien meilleur que de mettre de la béchamel, c'est bien meilleur que de mettre que du fromage. C'est de faire cette crème de fromage dans ce pain qui est parfaitement choisi avec un bon jambon, c'est un vrai bonheur. Et c'est un peu tout ça en fait qu'on retrouve dans ce livre, de la recette du beurre blanc traditionnel, de la vinaigrette, de tout ce qui fait qu'en fait on prend du plaisir à table et on aime se retrouver ensemble.
Vous, Calo, vous cuisinez beaucoup. Vous avez cuisiné pas mal pendant le premier confinement.
Je cuisine tout le temps, en fait. Je cuisine pour mes enfants, alors je fais une cuisine très simple. Et j'aime beaucoup utiliser celle de Jean-François Piège parce qu'elle est simple aussi, elle est pleine de saveurs. Et puis, je sais pas, mais peut-être que... Alors, c'est comme nous, en musique, on a des influences. Et je trouve que si Joël Robuchon a fait des enfants, je trouve que voilà, Jean-François en est un.
C'est quelqu'un que j'adore qui faisait une cuisine qui avait du goût en fait, tout simplement.
Faites-nous rêver, qu'est-ce que vous allez faire à votre épouse et à vos deux petits bouts pour Noël, histoire qu'on s'inspire un peu, quoi.
Je sais que je vais me faire un petit peu houspiller par mon épouse parce que je vais faire goûter du foie gras à ma fille, même si elle a que 6 mois. Je sais que je vais lui passer.
C'est vrai?
Oui, oui. Ah ouais, j'en suis sûr.
Prenez une photo de sa tête.
Oui, oui. J'ai fait un pot-au-feu dimanche et je lui ai fait goûter du bouillon. Elle dans une cuillère, elle l'a bu comme ça. C'était trop mignon.
Sûr.
Ouais, c'était trop mignon.
Un peu de foie gras et vous, Calo?
Je sais pas encore.
Ouais, vous avez pas réfléchi?
Non, je ne sais pas. Ah si, je pense que je vais faire un risotto peut-être à la truffe ou je sais pas.
Très bonne idée.
Voilà. On sent les influences italiennes. Je rappelle votre livre, Jean-François Piège, le grand livre de la cuisine française, recette bourgeoise et populaire pour ceux qui nous regardent. Il est là, il pèse, il y a vraiment de quoi faire. Bon, ben, pendant les confinements, ça peut servir, mais surtout, on espère vous retrouver très vite dans vos restaurants.
Merci.
Dans un instant, une petite surprise pour vous, Calogero, un ami à vous. Réfléchissez pendant la pub.
Ok.
À tout de suite sur la télé.
Journal inattendu sur RTL, avec Calogero et Ophélie Meunier. RTL. Le journal inattendu de Calogero, avec Ophélie Meunier sur RTL.
Les plus belles années d'une vie, celle que l'on n'a pas vu passer.
De la gourmandise et du rire, on passe à l'émotion. Calogero, vous avez composé la bande originale du film de Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie.
Avec Francis Lai.
Un moment émouvant pour vous. Vous avez vécu le dernier moment en studio avec Francis Lai avant sa disparition. La petite surprise, est-ce que vous avez une idée maintenant de qui ça peut être?
J'ai à peu près une idée.
Vous espérez?
J'espère.
Alors on y va. Bonjour Claude Lelouch. Est-ce que vous m'entendez? Alors, il était avec nous. Il va revenir. C'est bien Claude Lelouch qui est avec nous. Vous avez très envie de composer de plus en plus pour le cinéma, si je ne me trompe pas.
Oui, et c'est vrai que Claude Lelouch et Francis Lai m'ont en quelque sorte ouvert la porte à ce domaine que je connaissais moins. Et Claude Lelouch a été l'une des plus belles rencontres de ma vie. Et j'aime parler avec lui, j'ai aimé ce qu'il m'a, la liberté qu'il m'a laissée.
Je crois qu'il est avec nous. Claude Lelouch, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Ah. Pas tout. Il est avec nous ou pas? Je sais pas. Est-ce que vous nous entendez, Claude Lelouch? On va tenter de le récupérer. Il tente de nous joindre. Est-ce que vous espérez avoir un nouveau projet avec Claude Lelouch bientôt?
J'adorerais. J'adorerais, ce serait fabuleux.
Et d'autres idées pour d'autres musiques de films?
Après, c'est toujours c'est comme la relation que j'ai avec Paul École, c'est un binôme, vous voyez. Donc certainement qu'un jour je rencontrerai aussi un metteur en scène qui me fasse confiance autant que Claude Lelouch, et dans ce cas-là je serais ravi, oui, de faire des musiques de films.
Je vous ai demandé quelles étaient vos musiques préférées. Je vous ai aussi demandé quels étaient vos films préférés, ceux qui vous avaient le plus marqué. Vous m'avez répondu Le Parrain, la scène mythique de la mort de Sonny Corleone.
Ah oui, la mort de Sonny Corleone, elle m'a marqué. J'étais enfant, elle m'a pas du tout angoissé. Enfin, je veux dire, c'est pas un film que j'étais, pourtant j'avais 9-10 ans. J'ai adoré ce film quand je l'ai vu parce qu'il y avait en fait, je ne suis pas du tout fasciné par la mafia, pas du tout. D'abord, je viens d'une famille sicilienne et il n'y a pas de mafia dans ma famille. C'est plutôt des facteurs et des mineurs de soufre. Mais dans ce qu'il y a de génial dans Le Parrain, c'est qu'ils ont pris tout le bon côté de la famille sicilienne. Et qu'ils l'ont. C'est ce que Francis Ford Coppola a fait. Et donc, il l'a mis dans ce film où il y a les plus grands acteurs qui se croisent. On croit que Robert De Niro c'est Marlon Brando jeune. Quand on connaît l'histoire d'Al Pacino où il était complètement inconnu et que, enfin c'est fou. Et Sonny, la mort de Sonny, donc c'est James Caan. En fait, on s'attache au grand frère. Mm-hmm. Sonny, c'est le grand frère nerveux qui a du mal à gérer ses émotions, mais qui en même est tendre envers ses frères, etc., qui doit prendre la succession du parrain et qui meurt à un moment où on s'y attend pas du tout, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est l'une des scènes les plus fortes.
On vous en bouleversé par ce film et par cette scène. Ouais. Et est-ce que Claude Lelouch, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? La régie me dit que ça y est, on vous a.
Ah,
Claude Calogero, Claude Calogero.
Ça va, Claude? Tu sais, je pense souvent à toi. Tu me manques.
Ah, j'ai l'impression. Ah bon. Alors. L'information, c'est que Claude Lelouch est à la montagne et qu'en fait, en termes de réseau, c'est un petit peu compliqué. Il est monté trop haut. Claude Lelouch avait très envie de vous faire cette petite surprise, vous l'avez compris. On essaye de le joindre, on a du mal. En tout cas, on vous souhaite à lui et à vous de retravailler ensemble très bientôt.
Avec joie, vraiment.
Ouais, alors, dommage pour la petite surprise. Vous avez entendu son petit bonjour. Il était là juste après cette émission.
J'ai reconnu sa voix.
On le rappellera depuis la régie pour que vous puissiez vous parler. Merci, Calogero, d'avoir pris les commandes de ce journal inattendu. Votre nouvel album, Centre-Ville, qui est déjà disque d'or, qui est déjà un succès. Vous retrouvez cette émission en podcast sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr. Tout de suite, c'est Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, numéro consacré à l'artiste Basquiat. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, malgré ces circonstances un peu particulières. Bonne fête de fin d'année, Calogero. Bonne fête de fin d'année, Jean-François Piège, qui est resté avec nous.
Merci.
Prenez tous bien soin de vous. On se retrouve le samedi 9 janvier à 12h30 avec mon invité Catherine Pancol. Passez un excellent week-end sur RTL.
Journal inattendu.